Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté célébrée chaque année à la mi-octobre. Cette année, le thème retenu, encourager à passer de l'humiliation et de l'exclusion à la participation des pauvres. Un thème et une approche que défend passionnément, et ce depuis plus de 30 ans, Bruno Tardieu, volontaire permanent à l'ONG ATD Carmonde, que Christina Silvero a rencontré.
Pour les gens en situation de pauvreté, c'est une évidence que ce qui les empêche de sortir de la misère, c'est le regard qu'on porte sur eux. Et pour la première fois, une grande institution comme l'ONU reconnaît ce fait. C'était nouveau dans le langage de parler d'humiliation liée à la misère. Mais en réalité, c'est le fondement de la raison d'être même de cette journée, c'est de pouvoir rendre honneur aux gens qui vivent la misère, aux gens qui luttent au jour le jour et qui sont toujours considérés, et malheureusement de plus en plus, comme, disons, des losers, des gens qui n'ont pas de volonté, des gens qui ne veulent pas s'en sortir, des gens qui profitent. Et plus ce regard se durcit, et plus la possibilité de sortir de la misère pour des enfants, des jeunes, des adultes s'éloigne.
Quand on parle de pauvreté, on parle de combien de personnes aujourd'hui ? Combien de personnes sont impactées par la pauvreté ?
Alors, c'est très difficile parce que la mesure de la pauvreté que nous remettons en cause, parce qu'elle est considérée comme uniquement monétaire aujourd'hui, or nous pensons que, comme le disait Amartya Sen, ou comme le disait Joseph Rezinski, le fondateur d'ATD Carmonde, la pauvreté, c'est aussi d'être coupé des réseaux, d'être pas considéré. Si on considère uniquement les notions économiques, on peut dire qu'il y a 1,3 milliard de personnes qui sont vraiment dans l'extrême pauvreté. Mais la réalité, c'est que c'est plus complexe que ça et qu'un étudiant, par exemple, qui a peu de revenus, n'est pas dans la grande pauvreté dans la mesure où il est très inséré, dans la mesure où il a un projet, dans la mesure où tout le monde compte sur lui. La vraie réalité de la pauvreté, c'est quand plus personne ne compte sur vous, plus personne n'attend rien de vous.
Justement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que ça veut dire que d'être pauvre, le quotidien d'une personne qui vit dans la pauvreté ?
Alors, c'est le fait d'avoir les droits fondamentaux auxquels moi-même, je n'ai guère prêté attention dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans ma vie d'adulte, avant de rencontrer ATD Carmonde, parce que je les considérais comme habituels, normaux, c'est-à-dire le droit à habiter quelque part, le droit à vivre, à manger, à boire, le droit à avoir une formation, le droit à avoir un emploi, et la santé, tous ces droits-là, dans l'extrême pauvreté, tombent en irréalité, ils ne sont pas effectifs. Et donc la conséquence, c'est si vous n'avez plus ces sécurités fondamentales, vous ne pouvez plus reprendre votre place dans la communauté des hommes et tout le monde vous considère comme responsable de votre situation. La plus grande des injustices, c'est de considérer les gens en situation de pauvreté comme coupables de leur situation. Et c'est ça que retourne un peu cette journée. Et comme le disait très clairement le secrétaire général de l'ONU dans l'évaluation de cette journée il y a 10 ans, c'est un des rares espaces-temps dans le monde international et dans le monde tout court où les personnes en situation de pauvreté parlent de leur combat, parlent de leur résistance et parlent en termes de droits humains et non pas en termes de manque. Et d'autre part, c'est la seule journée aussi qui fait appel à tous parce qu'on ne peut pas songer à lutter contre la misère. C'est un peu comme le racisme ou le sexisme. Ça demande à ce que tout le monde change et qu'on sorte du mépris envers les gens très pauvres et qu'on comprenne le courage qu'ils ont. Et donc cette journée a été évalué il y a 10 ans pour ses 20 ans par le secrétaire général de l'ONU. Il demandait vraiment à ce que cet esprit qui est si précieux devienne beaucoup, beaucoup plus connu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons lancer une grande mobilisation pour que l'année prochaine soit un très grand rendez-vous citoyen et dépasse les circuits habituels des gens engagés contre la pauvreté. C'est déjà beaucoup. Tous ces gens-là engagés contre la pauvreté se retrouvent aujourd'hui. Mais nous avons vraiment le désir que les citoyens de tous bords comprennent que la lutte contre la misère, c'est leur affaire.
Vous avez évoqué le fait que pour cette journée, les personnes qui vivent dans la pauvreté ont l'occasion de parler de leur combat. ATD Carmonde a été impliqué non seulement dans la sélection de la thématique de l'année, mais a fait aussi venir des intervenants, à l'instar de Patrick Lubin. Pourquoi Patrick Lubin et quel est son message ?
Patrick Lubin, je ne le connais pas encore, je suis très heureux de le rencontrer tout à l'heure, mais j'ai entendu parler de ce qu'il porte. L'équipe ATD Carmonde de New York nous a parlé de lui plusieurs fois, et il disait quelque chose il y a quelques mois, c'est que depuis qu'il y a cette journée, depuis qu'il y a cette inscription gravée sur le parvis des droits de l'homme à Paris et gravée sur une réplique ici à New York, qui dit que la misère est une violation des droits de l'homme et que s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré, depuis que ce jour existe, on ne peut plus humilier les pauvres. Il est persuadé que pendant toute l'histoire de l'humanité, les pauvres ont été humiliés sans rien dire. Il disait très clairement, depuis qu'il y a ça, depuis qu'il y a eu ce père Joseph Wrzesinski, fondateur d'ATD Quart-Monde, qui a osé dire qu'il était méprisé simplement parce qu'il était pauvre, depuis que cette parole est dite, quelque chose a changé. On ne pourra plus humilier les pauvres. Moi, je trouve que c'est un très fort courage de dire ça, un très fort courage de dire que quand il était à la rue à New York, il était vraiment traité à peine comme un humain. Et depuis que les gens arrivent à dire ça, les gens qui le vivent, dire qu'ils sont à peine traités comme des humains, eh bien, nous prenons conscience que c'est pas juste une question d'inégalité, que moi j'ai deux voitures, mon voisin a une voiture, tout ça, c'est des questions qui sont intéressantes, l'inégalité. Mais l'inégalité va à un tel point de violence, finalement, les gens ne sont plus traités comme des humains. Patrick le dit très très fortement, et ça me fait penser à une autre femme de France, de Nogent-le-Rotrou, d'une petite ville en France, qui disait « Le 17 octobre, c'est le seul jour où on nous croit. Tous les autres jours de l'année, on ne nous croit pas. Il faudrait quand même que ça soit tous les jours. »
Vous dites aussi que c'est une journée pour que tout le monde change. Quelle est l'importance d'avoir ce rendez-vous annuel à l'ONU même et qu'espérez-vous voir découler de cette rencontre aujourd'hui ?
Eh bien, c'est précisément qu'on écoute les gens en situation de pauvreté, qu'on écoute ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Il dit, Patrick Lubin, que vivre dans la misère, ça demande beaucoup d'intelligence. Mais qu'est-ce que le monde fait de l'intelligence des gens très pauvres ? Rien. Les gens très pauvres sont considérés comme ayant une expérience raté, qui n'a pas d'intérêt, dont on n'a rien à apprendre. Et nous, nous considérons que tous les experts en justice, en santé, en éducation, devraient apprendre de l'expertise des gens très pauvres. Vous m'avez posé la question du quotidien des gens dans la misère. Moi, je repense beaucoup aux enfants. J'ai été des années avec les enfants, ici à New York, dans le South Bronx, à East New York, puis à Paris, puis dans d'autres lieux dans le monde. Les enfants très pauvres savent assez vite que leur expérience, ils doivent la taire. Que leur expérience est quelque part niée par ce monde, qu'elle n'est pas reconnue, qu'elle est dangereuse. Et donc, ils ne peuvent pas dire leur expérience, ils ne peuvent pas dire leur intelligence. L'espérance qui est soulevée par cette journée, qui est grande, et si Patrick Lubin veut venir, c'est pas parce qu'on lui donne quoi que ce soit, on lui donne rien en échange. C'est son espérance qui fait qu'il veut venir ici. L'espérance, c'est que l'intelligence des pauvres soit enfin utile au monde pour nous rendre un peu moins maladroit. Moi, j'ai énormément appris dans ATD Quart-Monde du fait que, sans le vouloir, j'étais extrêmement maladroit. Je pouvais humilier, je pouvais vexer des gens en situation de pauvreté sans m'en rendre compte.
Par exemple ?
Des enfants avec qui j'ai commencé à Créteil dans une cité d'urgence. Moi, je faisais ma thèse de mathématiques. Il y avait des enfants là avec qui je faisais bibliothèque de rue qui étaient considérés comme vraiment incapables d'apprendre. Ils étaient orientés dans des classes spéciales pour débiles légers. Et voilà que dans cette cité d'urgence, il y avait une militante qui avait créé un club d'échecs. Et plusieurs de ces enfants me pilaient aux échecs systématiquement. Et moi, ça m'a énormément bouleversé parce que finalement, je ne m'attendais pas à ce que les enfants qui échouent à l'école soient capables de me battre aux échecs. Parce que j'avais bien ancré dans ma tête que si on échoue à l'école, c'est qu'on est moins doué. Et si on est moins doué, ben on devient pauvre, c'est normal. Si vous voulez, la misère est tellement incompréhensible qu'on s'invente des théories qui sont assez robustes. Et moi, par exemple, j'ai honte de dire aujourd'hui, mais je le dis très clairement publiquement, et j'ai publié un livre là-dessus, que j'étais certain que des enfants qui échouaient à l'école étaient moins intelligents que les autres. Il a fallu que je vive ça pour me rendre compte qu'ils étaient complètement intelligents, capables de me piler aux échecs, avec énormément de sensibilité, énormément d'intelligence de la vie, mais qu'ils avaient appris à ne pas la dire, à ne pas la montrer. Et c'est une manière dans laquelle j'ai pu, sans m'en rendre compte, pas vraiment faire attention à ce que pensaient des gens en situation de pauvreté. Très souvent, on est centré, des gens comme moi qui n'ont pas connu la misère, on est centré sur ce que nous devrions faire pour eux et ce qui leur manque. Et on n'est pas du tout centré sur ce qu'on devrait apprendre, ce qu'on devrait recevoir, ce qu'on doit apprendre pour déconstruire nos préjugés. On a lancé un petit livre qui s'appelle « Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ».
C'est justement pour déconstruire ce qu'on a appris ?
Pour déconstruire ce qu'on a appris, pour donner des arguments aux gens qui entendent dire dans leur famille, dans leurs rencontres, qu'au fond, les gens qui vivent avec le welfare ou avec le RSA en France vivent mieux que s'ils travaillaient. Tout ça, c'est des idées qui circulent, qui sont totalement fausses. Donc on apporte des chiffres précis qui montrent que c'est faux. Mais pourquoi ces idées circulent alors qu'elles sont fausses ? Pour une raison très simple. C'est que les personnes en situation de pauvreté ne répondent pas. Si vous dites quelque chose sur, je sais pas, les journalistes ou sur les médecins, ici à New York, le lendemain, il y aura une op-ed dans le New York Times qui y répondront. Mais sur les gens très pauvres, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les hommes politiques se privent pas pour dire énormément de choses fausses parce que les gens en situation de pauvreté ne répondent pas. Donc l'absent a toujours tort, celui qui se tait a toujours tort, donc s'installent des idées extrêmement puissantes pour justifier la misère. Une autre explication classique, c'est les enseignants qui vous disent « mais les enfants échouent à l'école parce que les parents, ils s'en fichent en fait de l'école ». Et on peut croire que les parents en situation de pauvreté se désintéressent de l'école, parce qu'ils ne viennent pas souvent en réunion, quand ils viennent ils s'énervent, etc. En réalité, ils ont une peur bleue de l'école, parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient enfants, ils se sentaient humiliés à l'école. Et donc, que des enseignants puissent déconstruire leur représentation que les parents en situation de pauvreté se désintéressent de l'école, c'est fondamental. Non seulement ces parents s'y intéressent, mais en fait, c'est leur priorité. Et en fait, beaucoup d'associations vont vers les personnes défavorisées uniquement par rapport à leurs droits biologiques, si vous voulez. Le droit à manger, le droit à avoir un toit. Mais les droits très essentiels comme de pouvoir apprendre, de pouvoir voir ses enfants avoir une éducation, très souvent même la réponse de la société ne tient pas compte de ça. Et on a la chance à TD Quart-Monde d'avoir été fondé par un homme qui avait vécu la misère et donc qui nous a dit que cette aspiration à connaître, à savoir, à apprendre, ce père Joseph Rezinski disait « Moi, je suis jaloux des gens qui, dès leur enfance, ont pu apprendre la musique, la danse, le théâtre et j'ai passé ma vie à vouloir que ces bienfaits-là puissent être partagés. » Et au-delà de ça, c'est aussi ce besoin d'apprendre, ce désir d'apprendre. Moi, je l'ai vécu tant de fois en faisant des bibliothèques de rue et j'ai vu tellement les parents bouleversés de voir leur enfant être passionné par un livre et puis ils me disaient « Mais je ne comprends pas, à l'école on me dit que ça ne l'intéresse pas ». Vous voyez, il y a énormément de préjugés, d'idées préconçues qui sont malheureuses parce que l'alliance entre les enseignants et les personnes en situation de pauvreté, elle devrait fonctionner à plein. Or, la misère est tellement mal comprise par notre civilisation que même les enseignants se disent, il faut dire que les enseignants, ils se sentent vexés que les enfants ne réussissent pas. Ils sont déçus que les enfants défavorisés ne réussissent pas si bien que ça à l'école. Donc ils se cherchent des explications. Donc beaucoup de gens se sentent en échec face à la misère. Et donc quand vous êtes en échec, une solution, c'est de se chercher des explications en dehors de soi. Il y a un professeur de sociologie à Harvard, la Christopher Winship, qui dit que Rezinski a fait comprendre que souvent les gens plus orientés, disons dans la droite de l'échiquier politique, disent la pauvreté c'est dû aux pauvres. Les gens plus orientés vers la gauche de l'échiquier politique disent la pauvreté c'est dû aux structures de la société. Mais ni les uns ni les autres se demandent quelle est ma responsabilité vis-à-vis de la pauvreté. Et en fait, déconstruire notre représentation de ce que vivent les gens très pauvres, c'est le but de la journée. Quand les gens prennent enfin la parole dans un lieu honorable comme l'ONU, non seulement pour ceux qui parlent, c'est très important, mais pour ceux qui écoutent aussi, c'est très très important. Et dans les espaces d'ATD Quart-Monde, qu'on appelle les universités populaires Quart-Monde, qui ont lieu un peu partout dans le monde, souvent les gens viennent et pendant un an, deux ans, ils écoutent ce que d'autres osent dire. Eux, ils n'osent pas parler, mais ils écoutent. Puis au bout d'un moment, ils osent dire qu'eux aussi, ils ont vécu ça, d'être traités pas tout à fait comme des hommes.
On se tait parce qu'on ne veut pas mettre mal à l'aise justement vis-à-vis des personnes qu'on a devant nous quand on est pauvre et on n'exprime pas ce que l'on sait et nos connaissances, notre intelligence.
Oui, mais aussi parce que souvent on est dépendant. Une parole assujettie, le père Joseph disait, ma mère disait tout le temps merci à tout le monde alors qu'elle était humiliée, mais elle n'osait pas le dire parce qu'elle savait qu'elle dépendait encore des personnes qui l'aidaient. Donc cette dépendance peut amener au fait que les gens disent la parole qu'il faut dire plus que la parole qu'ils aimeraient dire. Et il y a beaucoup d'enquêtes même qui sont biaisées parce que les gens sont très craintifs de ce qu'ils pourraient dire, qui pourrait se retourner contre eux.
Voilà, et c'est avec Bruno Tarbieu de l'ONG ATD Quart-Monde que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine que vous pouvez retrouver sur les médias sociaux ou réécouter sur Internet avec tous les autres programmes de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.